suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis essentiel. Je suis artiste.
Nous sommes lundi matin, il est 8h passé de quelques minutes sur les ondes de Radio Campus 106,6 et comme tous les lundis matins, les premiers lundis du mois, et bien c'est l'heure de Tous Essentiels, l'émission du Revenu de Base qui fait le tour des différentes versions et avec, pour présenter cette émission, Virginie. Bonjour Virginie.
Salut Max, comment tu vas?
Mais ça va bien et toi?
Oui, ça va.
Bon, dis-moi, tu es venue avec un invité, je vois.
Oui, un doctorant.
Oh, un monsieur sérieux.
Il est jeune, il y a 30 ans.
Ah bah oui, c'est ça, je me dis bien, il n'a pas encore la barbe blanche.
Non, pas encore. Enfin, bon, nous, on a à peine un peu plus. Hein,
voilà,
mais, mais bon, comme quoi, il y a des jeunes qui s'y intéressent aux revenus de base. On accueille Clément Cailleul. Bonjour Clément.
Bonjour.
Donc, Clément, tu vas passer à la moulinette de notre devinette rituelle.
Je suis prêt.
Imagine, à partir de demain, tous les mois, tu reçois suffisamment pour vivre. Ça tombe sur ton compte, il n'y a rien à faire, c'est à ton nom et c'est jusqu'à ta mort. Qu'est-ce que ça changerait pour toi?
Dans mon quotidien aujourd'hui, comme je suis doctorant et que c'est un statut relativement précaire, donc j'ai pas de financement, je suis à la fin de ma thèse, donc j'ai plus de financement aujourd'hui, ça me permettrait de finir plus sereinement ce type de travail, en tout cas qui demande du temps et un investissement très important. Même si les revendications qu'on a sur ce terrain-là, ça reste une titularisation et donc des financements accordés pour ce type de projet. Après, plus au départ de mes engagements sur ces questions, c'était aussi la question de se libérer du temps pour potentiellement faire d'autres choses et pouvoir accorder, en tout cas, mon temps à des activités que j'appellerais autonomes ou des choses qui sortent de ma sphère directement professionnelle. Mais sinon, sur cette question, en tout cas, de qu'est-ce que ça changerait individuellement, pour moi, elle reste relativement limitée, même si elle est fréquente dans l'engagement sur le revenu de base, et c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les débats politiques. C'est pas la réponse à cette question que moi j'apporte aujourd'hui, que toi tu pourrais apporter, que Max pourrait apporter, qu'on pourrait demander à beaucoup de gens dans la rue, ne fait pas un projet politique et ne fait pas un projet de protection sociale également. Donc c'est vraiment quelque chose de... Donc il y a une dimension individuelle qui permet de porter un message, je pense, et aux personnes de se projeter, mais qui ne construit pas le projet politique en lui-même. C'est vraiment une dimension importante aussi à avoir, parce que pour moi, c'est un enjeu fondamental de se poser la question de... c'est pas la somme des intérêts et de ce que les gens feraient individuellement qui fera le projet de société dans lequel ce type de mesure ou de projet politique, pour aller plus loin, pourrait nous amener.
Oui, en fait, cette question a une double intention. D'abord, te présenter. Et aussi, concrètement, que chacun, chacune de nos auditrices et auditeurs se pose la question pour elle. Donc, je vous invite vraiment à vous poser cette question-là et à découvrir, au-delà des projets collectifs, qu'est-ce qu'individuellement on ferait. Parce que je me rends compte que quand on discute du revenu de base ou autre appellation, il y a souvent des notions abstraites et qui sont des freins. Parce que on se raconte que les gens sont feignants, on se raconte que, etc. Et en fait, cette question, pour moi, est une première approche qui permet d'humaniser, en fait, d'ancrer ça dans la réalité. Donc, ce que j'entends pour toi, c'est d'abord en tant qu'étudiant, chercheur, ça t'apporterait de la sécurité au quotidien. Et puis plus tard, ça te permettrait de diversifier tes activités hors de l'emploi. Il n'y aurait pas qu'un emploi, mais il y aurait aussi une part de liberté, d'engagement, autre quoi. Donc c'est un petit peu aussi pour qu'on puisse se retrouver et se rassurer les uns les autres que non, l'être humain n'est pas fainéant de base et ferait a priori un bon usage de cet argent et donc de ce temps libre. En tout cas, c'est ce que les expérimentations nous montrent. Clément, tu es là parce que ça fait un certain temps qu'on se connaît. On s'est rencontrés dans le mouvement français pour le revenu de base où à l'époque, tu faisais un travail. Tu as été en service civique.
Ouais.
Et depuis, tu as fait un sacré bout de chemin puisque tu as travaillé avec la ville de Grande-Synthe qui est pas loin de Lille, tout près de chez nous. Et qui s'est... qui a été une expérimentation. Alors, pour une fois, on ne va pas parler d'une version à venir, mais d'une version concrète déjà réalisé et en cours. Et merci d'être là parce que tu as un regard dessus en même temps militant, parce que tu l'as choisi voilà, par rapport à tes convictions, et en même temps de chercheur, de scientifique. Et c'est ces regards croisés qui m'intéressent beaucoup. Donc, est-ce que tu peux déjà commencer, un peu comme on le fait chaque mois ici, par nous présenter ce projet du minimum social garanti à Grande-Synthe? À la base, ça servait à quoi? Damien Carême, donc, qui était le maire et aussi député, etc. Qu'est-ce qu'il en attendait? Qu'est-ce qu'il a présenté comme projet?
Oui. Déjà, commencer peut-être par revenir un petit peu sur ma position que tu as évoquée. Et effectivement, donc, je faisais, dans le cadre de mon stage de fin d'études à Lyon, mon service civique, donc au sein du MFRB, du Mouvement Français pour un Revenu de Base. Et c'est donc à la suite, une fois que j'ai été diplômé, que finalement, hasard de calendrier, Damien Carême, donc maire de la ville de Grande-Synthe, donc à côté de Dunkerque, annonce qu'il souhaite mener une étude préalable à une expérimentation de revenu de base. Donc on est en janvier 2018. C'est vraiment, pour lui, la première idée, c'est de reporter ce sujet au cœur de l'actualité. Ça n'échappera à personne et aux auditeurs, auditrices qui s'intéressent à la question. On est après l'élection présidentielle de 2017 où le sujet a été porté haut et fort dans le débat public, même si le candidat qu'il portait particulièrement n'a pas fait un score très important, c'est le cas de le dire. Et on est également dans un contexte où les expérimentations se multiplient et où, en France particulièrement, en 2016, un rapport sénatorial porté notamment par le sénateur Daniel Percheron préconise pour évaluer un petit peu la mesure de passer par des expérimentations territoriales où des départements emmenés par le département de la Gironde souhaitent également porter un projet d'expérimentation d'un revenu de base. Et donc Damien Carême, à partir de là, dans cette ville, on pourra peut-être revenir sur le contexte local, annonce qu'il veut mener une étude préalable à une expérimentation de revenu de base. Là-dessus, moi, je suis recruté en convention CIFRE. Donc, c'est un statut de doctorant particulier où une structure recrute un ou une chercheur-chercheuse pour faire son doctorat au sein de la structure sur un sujet qui l'intéresse. D'accord. Donc, moi, c'est dans ce cadre-là que j'ai été engagé.
Et donc, le projet, l'intention, tu parlais de projet de société tout à l'heure, c'était quoi au départ?
Alors, le projet pour lui, c'est vraiment donc ce que je disais, de porter le sujet du revenu de base dans le débat public, parce que là, je vais faire un petit détour sur le contexte local, puisqu'il est, il est super important pour parler de ça, puisque la ville de Grande-Synthe, c'est une ville qui est sortie de terre dans les années 60. Enfin, il faut savoir que le territoire dunkerquois a été totalement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a une reconstruction très rapide et une reconstruction du port. Et à la fin des années 50, il y a une décision d'installer une grande usine sidérurgique qui s'appelle Usinor à l'époque, sur le territoire de Grande-Synthe. Donc Grande-Synthe, qui est un petit village de 2000 habitants, rasé, devient en quelques années, en 15 ans, une ville de 26 000 habitants, composée d'ouvriers, exclusivement d'ouvriers qui viennent travailler à l'usine pour l'acierie et avec cet intérêt national du plan de sidérurgie sur l'eau. À partir de là, donc, c'est vraiment une ville construite très rapidement sans service public. Et je vais passer un petit peu dans l'histoire, mais René Carême, donc le nom vous dira quelque chose, qui était syndicaliste CFDT, prend la mairie à la tête d'une liste ouvrière et de syndicalistes dans les années 70 et développe une politique qu'on pourrait rapprocher d'un socialisme municipal avec un investissement très très fort dans les services publics et dans les services sociaux également pour les ouvriers et les ouvrières en... Et c'est quelque chose qui est important et qui sera important pour parler du dispositif, en doublant les impôts locaux pour capter énormément d'argent des industries qui sont présentes sur le territoire. Oui. Donc le budget aujourd'hui de la ville, c'est finalement le résultat de cette histoire, c'est que la population est très pauvre et très précarisée, mais par contre le budget municipal est très important pour une ville de cette strate, avec ce nombre d'habitants. Donc, c'est 23 000 habitants aujourd'hui, la ville de Grande-Synthe.
Donc, des investissements possibles, en fait.
Des investissements très importants dans les services publics, dans les infrastructures publiques. Et je pense qu'on y reviendra. Dès les années 80, la mise en place d'un revenu minimum, qui s'appelait déjà, d'ailleurs, le minimum social garanti dans la ville, avant même l'instauration du RMI. D'accord. Donc, vraiment... dans un territoire qui est symptomatique finalement, puisque dès le milieu des années 70, toute cette main-d'œuvre qui était arrivée pour travailler à Usinor, qui aujourd'hui ArcelorMittal, perdent leurs emplois. Donc il y a de moins en moins d'emplois. Donc se retrouvent dans des situations, mais qu'on retrouve au niveau national, hein, d'une augmentation du taux de chômage et d'une population qu'on pourrait désigner comme normale, c'est-à-dire en âge et en capacité de travailler, qui se retrouve sans emploi. Et au niveau local, la municipalité cherche des solutions pour répondre à ce constat-là. Et donc là, on est près de 40 ans plus tard. Et Damien Carême, donc, qui n'a pas succédé directement à son père, mais en tout cas qui se place dans son mandat municipal à la suite de l'action de son père, dit que dans le contexte social actuel, avec une précarisation des populations, veut s'ancrer dans ce débat sur la protection sociale et réfléchir à un revenu de base, et si ce n'est pas possible, en tout cas mettre en place au niveau local un dispositif qui protège mieux les populations que ce qui existe aujourd'hui au niveau national. Donc c'est vraiment une remise en débat des modalités de l'État social et de comment on peut mieux protéger et mieux assurer l'existence des personnes en situation de précarité.
Donc là, par rapport à tout ce que tu as pu citer, on est entre les couleurs rose socialiste, vert ELV. Tu as parlé de Daniel Percheron, puis Damien Carême. Et ce que j'entends, c'est que là, c'est une intention d'éradiquer la pauvreté au sens large. On ne va pas revenir sur la définition de la pauvreté et de la misère. On en a déjà parlé à ce micro. Mais, et en même temps, c'est un contexte quand même restreint. Donc, on est loin, évidemment, de notre rêve de la définition d'un revenu de base, inconditionnel, universel, etc. Parce que c'est un périmètre particulier, la municipalité. On a déjà parlé ici du département où il y a quand même la gestion du RSA, etc. Donc voilà, un périmètre plus ouvert pour ce genre de questions. Qu'est-ce qu'une municipalité peut faire? Quels moyens? Et puis aussi, comment est-ce que ça peut se construire? Parce qu'il n'y a pas que des pro-carémistes à l'époque, et même encore maintenant. Comment est-ce que ça a pu se construire concrètement, les modalités?
L'annonce du projet initial, c'est donc Damien Carême, et Damien Carême qui, si on replace lui-même dans un contexte national, qui a un peu explosé médiatiquement à partir de 2016 par son action locale sur la question des migrations, et qui devient, entre guillemets, pour une ville moyenne, ce qui est assez rare, un élu de premier plan. Donc il y a aussi tout ce côté-là d'accumulation d'une reconnaissance, surtout dans les milieux militants, mais dans les milieux politiques plus généralement, de cet élu, qui, je pense, lui donne les ressources aussi pour annoncer ce type de projet et dire que, par l'action locale, on va porter un discours au niveau national. Pour la question des compétences, c'est un véritable questionnement et qui, moi, m'a interrogé aussi dans l'analyse du dispositif. C'est que, une fois qu'on a bien ça en tête, que l'idée c'est de mettre en place quelque chose au niveau local pour porter un discours à l'échelle nationale, donc avec vraiment cette volonté de performer finalement le champ politique national par une action publique locale, il y a aussi cette idée des effets et des modalités pratiques et concrètes que ça peut prendre au niveau local. Donc très rapidement, l'expérimentation de ce que Damien Carême portait finalement, puisque lui, il est favorable à un revenu de base donc universel, individuel, inconditionnel, à un niveau relativement élevé. Hein. Il porte des idées à 1200, 1500 euros pour que les gens puissent vivre correctement. Mmh. Au niveau local, sont pas possibles déjà légalement et budgétairement. Donc la question, c'est quel bricolage institutionnel on va réussir à faire finalement au niveau local pour annoncer ce minimum social garanti. Donc c'est vraiment un décalage entre le projet et l'ambition initiale et ce qu'on peut faire avec des compétences locales aujourd'hui quand on n'a pas la main mise sur, quand on n'a pas la capacité de faire la loi, tout simplement.
Et donc du coup, concrètement, comment est-ce que ça se met en place
Concrètement, on réfléchit à ce qu'on peut faire et par la commune a des compétences en matière d'action sociale. Donc ça, c'est historique. Hein. Les départements sont aujourd'hui les chefs de file en matière d'insertion, d'action sociale et également de distribution du RSA et des autres aides sociales. Mais la commune a toujours des compétences via les centres communaux d'action sociaux. Donc c'est cadré par le code de l'action sociale et des familles. Et la ville a aussi ce qu'on appelle, et c'est d'ailleurs l'une des seules collectivités à l'avoir gardée, une clause de compétence générale, c'est-à-dire qu'elle peut agir sur tous les sujets qui intéressent potentiellement son territoire. Donc là-dessus, on se base là-dessus pour finalement utiliser les aides du Centre communal d'action sociale, du CCAS, pour redéfinir les dispositifs locaux. Et ce que ça donne, c'est donc le minimum social garanti, qui est cette fois annoncé donc un an plus tard, en janvier 2019, par Damien Carême, et qui voit le jour en avril. Et donc l'objectif, tu le disais tout à l'heure, c'était d'éradiquer la pauvreté au niveau local. Et pour faire ça, ça va être de compléter les ressources des ménages pauvres, donc au seuil de pauvreté à 50% du revenu médian, on pourra y revenir. Donc là, c'était 885 euros par unité de consommation à l'époque, mais on ne va pas être trop technique sur ces sujets-là. Mais en tout cas, faire parvenir tous les foyers au niveau du seuil de pauvreté pour éradiquer la pauvreté dans la ville, porter ce message-là et leur permettre de faire ça. Après, il y a beaucoup de limites qui viennent de l'instauration locale, puisque même un CCAS et une commune n'a pas le droit d'apporter un revenu régulier, donc permanent, au foyer. Donc c'était une aide qui était accordée pour 6 mois, ce qui est une amélioration par rapport à ce qui se faisait avant, parce que d'habitude, dans les CCAS, il faut aller faire une demande d'aide exceptionnelle, qui parfois, ça existe encore en France, et distribuée sous forme de bons alimentaires, ce qui est très stigmatisant, en tout cas, pour les bénéficiaires, quand on passe à la caisse d'un supermarché de donner des bons alimentaires. Là, l'idée, c'est vraiment, il faut que ce soit de l'argent disponible pour 6 mois. C'est-à-dire que pour 6 mois, au moins, les personnes auront l'assurance d'avoir des ressources supplémentaires, donc de mieux se projeter, en tout cas, à cette échéance.
Et du coup...
Une pause musicale ?
Bonne idée.
Alors, je vous propose L'Inconsolable. On vaut mieux que ça. C'est parti sur les ondes de Radio Campus 106,6.
La réforme du code du travail,
on veut mieux que ça.
C'est pas qu'il y ait 2 ou 3 failles,
on veut mieux que ça.
Se résigner sans livrer bataille, qu'ils disent que l'on n'est pas taille, que les gens acceptent qu'on les assaille,
on vaut mieux que ça.
Qu'on laisse gouverner le patronat,
on veut mieux que ça.
Qu'on cesse de gouverner par vos lois,
on veut mieux que ça.
Quelques irréductibles gaulois face à l'envahisseur bourgeois qui voudrait piétiner nos droits,
on veut mieux que ça.
La loi et le Khomri,
on veut mieux.
Et toutes ces conneries,
on veut mieux.
Marre de ces moqueries en haut lieu nous,
on veut mieux que ça.
Que toute leur tromperie,
on veut
ça paye pas le bon prix,
on veut mieux.
On a bien compris qu'on vaut mieux, ouais,
on veut mieux que ça.
La réduction des temps de repos, les salaires peuvent faire de gros bons en arrière quand le haut de la pyramide le faut d'ajouter le fractionnement des 11 heures de la journée, repos et euros à journée, non,
on vaut mieux que ça.
Les heures supplémentaires peuvent être 5 fois moins majorées, les apprentis mineurs peuvent trimer 10 heures par jour, les heures partielles à 24 heures, la semaine à 35 heures, et d'autres acquittent à cœur que cette loi vise à chourer. C'est au service des exploiteurs, des groupes les plus dévastateurs, à qui cette loi fait des faveurs, que l'État a couru. Le plafonnement des indemnités, on veut pas se gourer, c'est pas pour aider le salarié car
on veut mieux que ça.
Les plans de sauvegarde de l'emploi consistent à virer les salariés sans quoi la barque est censée chavirer. Pour prétendu motif économique au lieu de ça, là qu'ils pourront se faire sans raison, mais
on veut mieux que ça.
Passer de 10 à 12 heures de travail par jour,
on vaut mieux.
L'extension du dispositif forfait jour,
on vaut mieux.
Bosser gratos pour leurs beaux yeux par amour,
on vaut mieux.
Oui, patron Jacques,
on vaut mieux,
ouais,
on vaut mieux que ça.
Et puis c'est vrai qu'aller s'épuiser,
on vaut mieux que ça.
S'enliser dans l'entreprise et se mépriser,
on vaut mieux que ça.
S'échiner,
mieux que ça.
Et se ruiner,
mieux que ça.
Et trimer pour déprimer et puis déprimer,
on vaut mieux que ça.
S'abîmer pour pas un rond pour des patrons,
on vaut mieux que ça.
Suivre les recommandations d'Emmanuel Macron,
il vaut mieux pas.
Chez Fayon,
on vaut mieux que ça.
Et la pente, c'est ça qu'on t'en fait d'affront,
on vaut mieux que ça.
Faire taf, non,
on vaut mieux que ça.
On vaut mieux que se tuer au boulot, que se maintenir la tête sous l'eau, que s'anesthésier le ciboulot. Pour l'heure,
on vaut mieux que ça.
On vaut mieux que bosser au McDo, que mettre en rayon des packs d'eau. On est loin de nos rêves d'ado,
c'est vrai qu'on vaut mieux que ça.
Perdre sa vie à la gagner, passer son temps à se manier, on est tous dans le même panier,
et on vaut mieux que ça.
Notre pouvoir pourront pas nier, tant ils vont voir qu'on est panier si on cesse les accompagner,
car on vaut mieux que ça.
Grève générale, ad vitam aeternam, vas-y, Paris réclame, ta petite Paris, c'est le drame pour la bourgeoisie, car Tricard, qui fabriquait sa cam, qui a trimé pour ses produits et sa gamme, sans salariat,
aïe aïe aïe,
ça va pas, ah bah ça tombe bien, combien vaut-on à ce stade-là, on vaut mieux que leur dire qu'on vaut mieux que ça. Ils ont là appris qu'on se moque de savoir combien on vaut, car on n'a pas de prix, pas de prix.
On vaut mieux que ça,
ouais.
On vaut mieux que ça.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Tous Essentiels avec L'Inconsolable. On vaut mieux que ça.
Mais oui, on vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ça. Écoute Clément, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir très concrètement comment est-ce que ça a pu instaurer. Donc, tu as parlé des limites légales, mais j'imagine qu'il y a aussi des limites humaine, parce qu'on ne part pas de rien. C'est pas, je pense au Conseil national de la résistance qui a réussi à instaurer quelque chose d'énorme. C'est tout un système qui a été changé, mais le contexte était, on était après une guerre. Voilà, les communistes avaient montré qu'ils avaient pesé et c'était un peu difficile de leur dire non à ce moment-là. Là, comment est-ce que ça a pu être négocié de tendre en tout cas vers une automaticité et puis une forme de confiance quand même vers ces personnes qui sont habituellement plus encadrées dans les aides sociales?
Oui, effectivement, c'est le caractère limité de l'action locale, mais qui a aussi été très intéressante pour moi d'étudier, c'était comment les agents et agentes de terrain finalement assimilent ce dispositif et le mettent en place et le reçoivent. Et ça, c'est un pan de l'enquête important que j'ai fait auprès des travailleurs, travailleuses sociales du CCAS et des bénéficiaires. Et donc, je parlais tout à l'heure de bricolage institutionnel. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, je fais une distinction dans ma recherche entre ce que j'appelle l'esprit du dispositif, c'est-à-dire ce qui a été annoncé et souhaité par le pouvoir politique au moment de l'annonce, c'est-à-dire se rapprocher d'un revenu de base, puis éradiquer la pauvreté et avoir un dispositif moins stigmatisant qui permette aux personnes, entre guillemets, de mieux vivre, et ce qui est effectivement mis en place. Et il y a donc le cadre légal qui limite la possibilité, je le disais tout à l'heure, de verser un revenu régulier, mais également qui limite la possibilité de verser tout simplement un revenu. Donc pour que ce minimum social garanti voit le jour, il a fallu que ça rentre dans le cadre des aides sociales exceptionnelles versées par un CCAS. Et pour ça, puisque quand on parle de revenu de base, on pense inconditionnalité, mais l'inconditionnalité n'était pas possible en fait. Il fallait qu'il y ait un contrat qui soit signé avec les bénéficiaires, entre les bénéficiaires et les travailleurs, travailleuses sociales et le CCAS, en gros, avec l'institution. Et il y avait également, mais ça c'était vraiment une contrainte légale, la nécessité d'un fléchage dans les dépenses. Mais ça c'était, pour le dire, il y a ce qui existe légalement, ce qui est signé dans le contrat et dans la pratique. L'idée c'était les personnes peuvent le dépenser effectivement comme elles veulent, mais légalement on était obligé de préciser que c'était censé servir à l'énergie, les vêtements, l'insertion professionnelle, etc. Et il y a une autre dimension qui pour moi était particulièrement intéressante. C'est pour ça que je pense que ces expériences peuvent nourrir les discussions et réflexions. C'est aussi qu'on n'était pas sur un grand soir local et une modification totale des pratiques, puisqu'il y a aussi des professionnels qui travaillent et qui ont des formations sur ces métiers de l'action sociale et de l'accompagnement et qui étaient au début plutôt très enthousiaste sur l'idée de on va se concentrer sur l'accompagnement social et on n'aura plus à distribuer des aides ponctuelles, mais qui, dans la mise en œuvre, comme elle était locale, limitée, que c'est toujours un peu compliqué, qu'il y a des périodes de tuilage, finalement, dans leur pratique professionnelle, s'y retrouvaient pas forcément, étaient parfois, au début en tout cas, en sous-effectif par rapport au nombre de personnes qui ont accédé au dispositif, et qui aussi, sur cette question de l'inconditionnalité, posait la question de l'attribution de l'aide à certains foyers qu'ils pouvaient rencontrer. En tout cas, ça les interrogeait sur certaines situations, puisque le calcul pour accorder l'aide avait été changé et que là, il y avait uniquement une logique de revenu et donc plus pour eux et elles notamment, puisque c'est des travailleuses sociales, une logique, je dirais, d'appréhension subjective des situations, de compréhension et de travail avec les foyers pour leur expliquer. C'était vraiment, si vous êtes en dessous du barème, vous y avez droit. Si vous êtes au-dessus, vous n'avez pas le droit à ce dispositif. Et là-dessus, c'est la dernière dimension aussi qui était intéressante pour moi sur la définition de la pauvreté et sur le dispositif. C'est qu'il y avait ces personnes qui, selon les travailleuses sociales, étaient en dessous du barème, donc avaient le droit à l'aide, mais pour lesquelles il n'y avait pas, elles ne voyaient pas d'accompagnement social spécifique à apporter. La seule problématique, c'est que ces personnes n'avaient pas assez de ressources.
C'est juste monétaire.
Oui, et n'avaient pas d'emploi, et que donc elles ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins, donc elles ne voyaient pas comment les accompagner. Par contre, il y avait d'autres types de profils et de foyers qui étaient au-dessus du barème, mais qui n'étaient pas dans des situations sociales assez sereine, en tout cas pour vivre décemment. Donc pour lesquelles il y aurait pu avoir des accompagnements et des aides exceptionnelles. D'ailleurs, des aides exceptionnelles étaient encore accordées à certains foyers qui étaient exclus du dispositif minimum social garanti.
Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que justement, quand on aura, je ne dis pas si, quand on aura, puisque le MFRB, on fait nos 10 ans, et puis on a décidé que dans 10 ans, il serait instauré, quand on aura un revenu de base, bah finalement, toutes ces questions ne se poseront pas, dans le sens où, comme il sera automatique, il n'y aura plus la question de est-ce qu'il faut l'accorder ou pas, et quel accompagnement, puisque ça sera forcément en plus. Donc il n'y aura plus ce côté stigmatisant, il n'y aura plus ce côté je dois prouver que pour l'avoir. Et comme tout le monde le recevra, dans un deuxième temps, il pourra y avoir, comme tu l'as dit, des possibilités d'aide supplémentaire ou d'accompagnement particulier. Ça, évidemment, au MFRB, on défend toujours l'accompagnement social et c'est pas, on donne pas revenu de base comme on dirait. Ben maintenant, vous avez de l'argent, vous débrouillez et on vous accompagne plus, que ce soit là, voilà, pour des problématiques de logement, d'insertion professionnelle ou d'enfants, etc. Donc on voit la difficulté de cette expérimentation qui en même temps est bridée dans le cadre légal. À une conditionnalité et qui se retrouve finalement avec, paradoxalement, toutes les contraintes, quoi. Les contraintes déjà existantes, plus les contraintes de l'ambition de faire mieux. Je rappelle quand même que M. Macron, quand il a été élu pour la première fois, avait promis qu'il soutiendrait toutes les expérimentations. Il y aurait une loi d'expérimentation. Voilà. Et donc, il était ouvert à tout ça. Et que depuis... alors, il y a bien une expérimentation dans le Nord. Soyons fiers de ça. Notre département a été choisi comme tête de file, un petit peu cobaye d'expérimentation de conditionner le RSA au travail. Merci, M. le Président du Conseil départemental. Donc une terrible régression. Par contre, les expérimentations dont tu as parlé tout à l'heure de différents, je crois une vingtaine de départements socialistes qui voulaient l'expérimenter et qui ont demandé, ben, se sont vus recevoir un refus assez net. Donc voilà, donc là on est vraiment dans cette question d'expérimentation de pouvoir local. Et du coup tu parlais d'une enquête, qu'est-ce qu'a donné l'enquête ? En termes de mieux-être peut-être, ou de type de consommation, est-ce que vous avez, depuis 2019, quelques résultats ?
Oui, bah je rebondis rapidement sur la question de l'expérimentation, puisque je m'y suis intéressé largement, puisque déjà j'avais été recruté pour ça, et c'est un peu au cœur de mon sujet. J'ai rencontré un petit peu les différents acteurs qui portaient ces projets au niveau national, et effectivement... Pour avoir un cas très concret, on parlait de la proposition d'expérimentation des départements socialistes. Moi, j'ai assisté le 31 janvier 2019 au débat sur la proposition de loi d'expérimentation. Et ce qui était très intéressant, effectivement, c'était que la majorité présidentielle et le président de la République se disaient très favorables aux expérimentations locales, puisque c'est une méthode scientifique qui permet d'évaluer ex ante l'action publique et donc de la rationaliser, entre guillemets, puisqu'on ne va pas faire n'importe quoi. En tout cas, dans leur état d'esprit, c'est ça. C'est, on va,
comme on l'a fait pour le RMI, pour...
voilà, oui, c'est pour, ça, oui, mais c'est...
comparaison un peu...
Oui, et c'est ça qui est intéressant aussi, par exemple, si on parle de l'expérimentation du RSA, c'est que derrière cette idée de méthode rationnelle, innovante de l'action publique, finalement, c'est toujours des intérêts politiques qui vont primer. C'est-à-dire, on met un vernis scientifique, qui en plus est augmenté aujourd'hui par l'obtention du prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel à Esther Duflo, puisque c'est elle qui promeut en tout cas ces méthodes expérimentales pour guider l'action publique. Et on met donc un vernis scientifique, mais finalement, sur les débats politiques sont cachés, mais bien présents. Et dans les débats, je reviens sur la proposition de loi des départements socialistes, la majorité se disait favorable à tout type d'expérimentation, mais s'ils sont d'accord avec le projet. C'est-à-dire, on ne va pas tester et vérifier les résultats d'un projet pour lequel on n'est pas d'accord. Et ce qui est très logique, ce qui est illogique pour moi, c'est plus de dire on est favorable à tout type d'expérimentation puisque ça permet de guider rationnellement l'action publique. Non, finalement, puisque si le projet politique, on est en désaccord avec, on ne va pas l'expérimenter. Donc finalement, c'est vraiment un outil de gouvernement, de preuve, de dire on va expérimenter les choses avec lesquelles on est d'accord pour finalement utiliser comme on peut et comme on veut les arguments et les résultats. Et ça, l'histoire des expérimentations de revenus de base le prouve. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de résultats nets qui n'ont pas été soumis à discussion politique derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un consensus qui est créé sur... il y a toujours les gens qui étaient contre restent contre, les gens qui sont pour restent pour, et ça ne va pas avoir une arme de conviction.
On a même un exemple intéressant là-dessus, c'est Manitoba, au Canada, où une expérimentation sur toute une ville a été réalisée pendant plusieurs années. Et en fait, les résultats ne sont maintenant que, juste, je sais pas, on est 40 ans après, exploités que maintenant, parce qu'il y avait une peur de part et d'autre, les contre et les pour, d'exploiter les résultats, parce que chacun était persuadé que ça allait être soit contre pour les pour et soit pour les contre. Je ne sais pas si vous me suivez. Enfin, bref, donc on ne ressort les cartons que maintenant, heureusement qu'ils les avaient gardés. Mais donc ça pose aussi la question et du suivi scientifique que tu représentes ici en tant que doctorant aussi, et de l'exploitation en termes d'analyse, mais aussi en termes d'exploitation politique et médiatique des résultats. Il y a aussi ça à garder en tête. Il ne suffit pas de faire une expérimentation, il faut aussi la suivre de façon, si possible, objective, si possible, neutre, si possible, scientifique, jusqu'au bout.
Oui, c'est ça. Et moi, ma position, en tout cas, et mon idée là-dessus, c'est qu'en fait, il ne peut pas y avoir de suivi objectif. Et comme c'est des projets qui sont portés par des majorités politiques en place, il n'y a pas d'expérimentation scientifique qui serait politiquement neutre, en tout cas. C'est-à-dire qu'en Finlande, quand le gouvernement de centre-droit décide d'une expérimentation d'un revenu de base, ça reste avec un objectif de tester les effets de l'insertion sur le monde du travail, avec un montant faible qui est à peu près du niveau du RSA en France aujourd'hui. Donc il y a des objectifs qui restent leurs objectifs politiques. Et ça, c'est très parlant sur les expérimentations au Canada dont tu parlais. Celle qui a eu lieu dans les années 70, et il y en a une qui a été lancée aussi plus récemment en 2018, qui ont été arrêtées parce que finalement les résultats intéressaient pas trop et qu'il y avait des changements politiques, et où ça ne nourrit pas réellement des débats et des questions de fond sur ce dont on parlait au tout début, pour le coup, le projet de société et ce qu'on voudrait construire avec ce type de mesures. Donc ça, c'est vraiment une dimension importante et à tenir, en tout cas.
On va revenir sur les expérimentations plus tard. Revenons d'abord sur cette enquête. Qu'a donné l'enquête que tu as menée, que tu as accompagnée auprès des bénéficiaires ?
Oui. Alors moi, j'étais dans une position particulière au sein des services de la mairie et donc en tant que chercheur à l'Université de Lille. Et donc, j'ai été vraiment intégré à toutes les phases du processus, donc de l'annonce au processus de design de la politique publique, de mise en œuvre jusqu'à son application. Donc ce que j'ai fait, et moi je ne parle pas d'évaluation volontairement, je parle d'une analyse, puisque j'étais vraiment dans une position d'observation et je ne suis pas là pour évaluer si ça fonctionne ou pas, puisque je n'aurai pas d'éléments objectifs pour faire ce travail-là, mais vraiment de comment ça s'est mis en place. Et donc j'ai fait ce travail auprès des élus, donc j'ai fait un travail de discussion avec les élus de comment a été mis en place, des agents de terrain, donc agents administratifs de la mairie et du Centre communal d'action sociale, des travailleurs-travailleuses sociales, qui étaient pour moi les premières concernées, qui allaient appliquer la politique, puis auprès des bénéficiaires. Donc c'est vraiment... J'ai essayé d'apporter toute cette dimension, en tout cas, de la mise en œuvre de la politique publique. Et donc pour le travail plus spécifique sur les bénéficiaires, puisqu'on a déjà un petit peu parlé du reste, j'ai fait un travail déjà sur les bases de données anonymisées sur les ressources et ce que ça apportait concrètement au foyer en termes d'aide, et un travail plus qualitatif d'une enquête par questionnaire téléphonique qui a été administrée. Donc il y avait à l'époque 570 foyers bénéficiaires ou qui avaient bénéficié du dispositif. On a réussi à en joindre 415 et j'ai eu 313 réponses, donc des bénéficiaires. Et ensuite, j'en ai rencontré pour faire des entretiens un peu plus approfondis.
Et alors, quel suspense ! Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent qui,
Oui, et donc ce que ça donne. Alors, puisque la question, je le rappelle, politique, c'était éradiquer la pauvreté au niveau local.
Oui.
Moi, je suis chercheur, donc éradiquer la pauvreté, déjà, c'est très compliqué, comme il y a plein de définitions concurrentes de la pauvreté. Donc j'ai posé la question en matière d'insécurité sociale. Et l'insécurité sociale, je l'ai définie, on l'a définie, suite notamment de Robert Castel, comme une capacité ou une incapacité à se projeter positivement vers l'avenir. Et c'est un peu moi, par différents types de questions, ce que je demandais aux bénéficiaires du dispositif. Et ce que ça montre, pour le dire succinctement, c'est que déjà les personnes sont aidées, puisqu'elles touchent des revenus supplémentaires, des ressources supplémentaires, donc les personnes se sentent relativement plus sereines par rapport à leur avenir immédiat.
Donc en termes de sécurité financière, là, pour le coup.
Financière. Donc sur ce plan-là, ça, c'est un résultat qui ressort. Mais par contre, il y a des différences très importantes en fonction des structures familiales. C'est une entrée que j'ai choisie. C'est-à-dire que l'isolement est un facteur de risque et d'insécurité sociale très important. Et notamment, moi, ce qui ressort très fortement de mon étude et ce que j'ai fait ressortir de l'analyse, c'est que même si, théoriquement, le seuil de pauvreté aide de la même manière tous les foyers, puisque c'est un seuil objectif qui est fixé, les foyers monoparentaux, donc qui sont pour 95% avec une femme à la tête d'un foyer monoparental, sont beaucoup plus fragiles socialement et se sentent encore plus fragiles que les couples avec enfants, par exemple. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, d'important, puisque en choisissant le seuil de pauvreté, on essaye d'objectiver un petit peu la mesure de la pauvreté. Et finalement, le travail de terrain et au contact avec les bénéficiaires montre que les dimensions sociales sont très importantes et que d'un foyer à l'autre, la situation n'est pas du tout similaire en fonction de ce type de situation.
Donc en fait, il faudrait, alors à minima, effectivement, un accompagnement particulier pour les mamans seules avec enfants. Et peut-être même plus de monnaie, c'est quelque chose qui serait ou pas forcément.
Non, mais oui, c'est un questionnement. Moi, je fais une proposition, il me semble, que j'en avais discuté avec la mairie à ce moment-là, c'était de mettre dans le calcul du seuil de pauvreté, prendre en compte en tout cas cette question particulière des foyers monoparentaux. Mais il n'y a pas aussi uniquement la question monétaire qui est importante. Tu parlais d'accompagnement, ça c'est quelque chose qui a été très très mis en avant par les travailleuses sociales, c'est-à-dire quel type d'accompagnement on peut mettre en place et comment on peut essayer de différencier finalement les accompagnements des personnes, ce qui était difficile à faire encore une fois au niveau local avec le peu de moyens dont disposait la municipalité. Et il y a aussi une dimension, je parlais d'insécurité sociale, le caractère, encore une fois, local, qui limite, si vous me suivez, la capacité à se projeter positivement vers l'avenir. Parce que quand on met en place un dispositif au niveau local, c'est le maire et son conseil municipal qui prend la décision d'aider les foyers. Et donc ça, les foyers en ont bien conscience. Et donc, très rapidement, finalement, il y avait cette idée que, bah, tout simplement, s'il peut le mettre en place du jour au lendemain, il peut aussi l'enlever du jour au lendemain. Et donc, en plus, c'était une période d'incertitude politique, puisque Damien Carême a été, à l'été 2019, élu député européen. Donc, il y a eu, pas un changement de majorité, mais un changement de maire. Il y avait des élections municipales par la suite. Et ça, pour les bénéficiaires, ça les place dans une situation d'incertitude. C'est-à-dire que on a cette aide-là qui nous aide très concrètement aujourd'hui, mais on ne sait pas si demain, elle ne va pas être remise en cause. Et pour prendre un sujet d'actualité, typiquement, je pense qu'aujourd'hui, c'est une aide qui aide beaucoup avec la question de l'inflation, notamment, et de l'augmentation des prix, qui touche beaucoup plus les plus précaires. Et si la mairie n'a plus la capacité budgétaire, par exemple, de soutenir ce dispositif, elle sera peut-être contrainte politiquement et budgétairement, de supprimer le dispositif. Et je pense que là, pour le coup, ce serait une catastrophe sociale pour les foyers qui sont touchés par celui-ci. Donc c'est vraiment une limite importante de l'action locale.
Et du coup, qui influence, j'imagine, aussi la façon d'utiliser cet argent, etc. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'investissement un peu plus long, quoi. Je ne sais pas, par exemple, dans un logement ou même dans des études ou des choses comme ça. Enfin, six mois, c'est du trop court terme pour pouvoir vraiment empowerment les gens par rapport à une famille en plus, parce qu'il y a des enfants, il y a peut-être les études des enfants, enfin d'autres. Des investissements qui sont pas possibles. Donc on les contraint aussi, avec les limites de l'expérimentation, à rester dans une forme de précarité dans le temps, quoi.
Oui. Oui, oui, bah c'est une limite bien pointée de toutes les expérimentations et qui est aussi importante ici. C'est-à-dire que les personnes savent que le dispositif sera limité et donc n'en ont pas la même utilisation que si ça leur était assuré à vie de fait. Donc on ne peut pas mesurer ces effets-là.
Bon, avant la pause musicale, et si on se disait que il y a suffisamment d'expérimentations partout dans le monde pour nous prouver que c'est bien et qu'on l'installe directement au niveau mondial?
Ça paraît une bonne idée. Hein. Vu qu'il y a des sous pour habiter...
Sur Mars
ou pour habiter à Grande Centre, il y en a également pour habiter à Saint-Cloud, figure-toi. Oh, c'est les Rolling Bidochon sur les ondes de Radio Campus 106,6. Voilà, des sous pour habiter Saint-Cloud, c'est d'actualité.
Hein. Et ça fait rêver. En fait, ça fait rêver. Après Grande-Synthe, il faut quand même se resituer que Grande-Synthe, pour tous ceux qui habitent Dunkerque et Grande-Synthe, bon d'accord, aujourd'hui, ils ont en plus les transports gratuits. Donc ça, c'est une autre piste qu'on a abordée ici dans le cadre du revenu de base. Mais il y a quand même une sacrée pollution aussi. Hein, le fait d'avoir tout cet argent grâce à une grosse usine, ça a quand même un prix. Mais bon, ça, c'est autre chose.
15 sites Céveso à proximité du territoire et la centrale nucléaire de Gravelines à quelques kilomètres pour alimenter tout ça. Donc, ce n'est pas très rassurant en termes de risques environnementaux.
Donc, comme on disait, hein, si on donne des aides quelque part, ça va créer un afflux massif. Ben non. Personne ne va à Grande-Synthe pour avoir le minimum social garanti. Par contre, ça aide bien les gens qui sont sur place. Donc, tu nous disais comment est-ce que concrètement les bénéficiaires ont utilisé cet argent supplémentaire?
Oui, les premiers retours que j'ai eus, je les ai eus par l'intermédiaire des travailleuses sociales. Mmh. Et c'était assez intéressant parce qu'elles-mêmes étaient touchées dans leur mission puisque les personnes disent en premier lieu que ça leur permet de mieux se nourrir. Et c'est aussi ce qui ressort de mon enquête, c'est que ça permet à des personnes d'acheter de la viande, d'acheter des produits de meilleure qualité, de parfois choisir les produits qu'ils vont acheter. Et ça, c'est vraiment une dimension très importante. J'évoquais tout à l'heure les bons alimentaires qui existent parfois encore. Bah, la liberté de pouvoir consommer ce qu'on a envie de consommer, c'est vraiment quelque chose d'important et qui ressort très fortement dans le sentiment de dignité des personnes. Voilà. Puisqu'en plus, ils vont aller payer avec leur argent.
Comme tout le monde.
Une fois que cet argent leur est versé, c'est leur argent, ça c'est aussi important, avec une carte bancaire et consommer les biens dont ils veulent. Ça leur permet aussi parfois de céder à une envie de leurs enfants. C'est aussi quelque chose de particulièrement important et qui marque les bénéficiaires. Et la deuxième dépense la plus importante qui est ressortie de l'enquête, c'est les dépenses de logement, tout simplement. C'est vraiment aussi, pour avoir fait des entretiens avec beaucoup de bénéficiaires, et de toute façon, c'est quelque chose qui est bien documenté, la précarité énergétique et la précarité dans le logement, c'est très important. Et des personnes qui ne pouvaient pas, par exemple, se chauffer, qui avaient du mal à payer leurs factures, ont réussi à mieux le faire. C'est vraiment les deux dimensions les plus importantes. Et après, il y a eu plein de choses différentes, donc également sur la possibilité de se vêtir. Donc le vêtement aussi qui ressort dans le troisième poste de dépenses le plus important. Et il y a également, et ce qui était important, et ce qui a marqué les travailleuses sociales, la possibilité, je disais, de faire de petits écarts, d'avoir des loisirs. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui change la vie des gens très, très concrètement, puisque quand on ne sait pas ce qu'on va manger à la fin du mois ou parfois le 15, le 10 du mois, bah, la possibilité d'avoir un loisir, c'est juste pas possible et pas envisageable. C'est-à-dire, à part se promener dans les parcs, il n'y a pas grand-chose qui est possible. Et ça, c'est quelque chose qui est ressorti aussi de l'enquête.
Et même s'il fait toujours beau dans le nord, bien sûr, puisqu'on a le soleil dans le cœur, bon, les parcs, tous les week-ends, c'est quand même une prise de risque.
Mmh. Bon, et donc, ils ne vont pas à Courche avec l'argent en question, c'est non.
Ils ne vont pas à Courche, donc pas de drogue non plus, pas plus d'alcool, pas de...
Non, bah ça, après, moi, je n'ai pas de mesures particulières, mais il y a... C'est aussi un questionnement que je pose, c'est-à-dire quand je disais c'est leur argent et ils en font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'il y a quand même une position générale dans la société qui est problématique d'avoir un jugement très très important sur comment les pauvres dépensent leur argent. Alors que l'exonération de l'ISF, on ne va jamais contrôler ce que vont faire les personnes qui ont été exonérées de cet argent. Alors que dès qu'on donne 200 ou 150 euros, il va y avoir un contrôle très très strict de ce que font les personnes. Donc ce n'est jamais vraiment leur argent finalement dans notre vision de la société. Donc il y a un contrôle important. Il y a la polémique qui ressort très très régulièrement chaque année sur l'achat des écrans plats. Donc c'est souvent un ministre qui, au doigt mouillé, décide que avec l'allocation de rentrée scolaire, les gens vont acheter des écrans plats. Bon, déjà, on est en 2023, les écrans cathodiques n'existent plus. Donc l'ineptie, en plus de cette dénonciation, est quand même particulièrement marquée. Mais et moi, je fais vraiment le choix, en tout cas, de ne pas poser de questions sur est-ce qu'il y a des consommations que je jugerais moralement mal qui sont faites de cet argent, puisque les gens, concrètement, savent mieux que moi la manière dont elles dépensent leur argent. Et ça, pour le coup, les études en sciences sociales le prouvent. Moi, je ne sais pas ce qui est le mieux pour les personnes, parce que, par exemple, s'il y a des promotions, et ça, pour le coup, c'est un vrai travail qui est fait par les familles, et notamment les femmes des familles populaires, s'il y a une promotion sur le liquide vaisselle à Lidl le lundi, bah, peut-être que la personne va en acheter beaucoup pour faire un stock. Et donc, ça va être un stock et une épargne physique. Et que, par contre, si on va pointer sur son compte, on va lui dire ça, c'est peut-être pas nécessaire. Sauf que pour elle, en tout cas, il y a une logique et une rationalité dans ce type de dépenses. Et sur, je parlais des biens de tentation, c'est un peu une traduction qui est faite, puisqu'il y a une ONG américaine qui mène une expérience, en tout cas notamment au Kenya. Et où, moi, il y a quelque chose qui m'est mal à l'aise, où il y a un jugement un petit peu sur la manière dont est dépensé l'argent. Et souvent, leurs produits d'appel et leurs arguments principaux, c'est de dire les gens n'achètent pas plus d'alcool et n'achètent pas plus de drogue. Ils appellent ça des temptation goods. Donc, il y a vraiment un jugement moral et normatif très, très fort de dire, bah, vous voyez, les pauvres ne font pas n'importe quoi de leur argent. Pour moi, ce n'est pas la posture première à avoir et la première question à se poser. En tout cas, c'est un peu malvenu.
Oui, et j'ai envie d'insister un petit peu sur ce qu'on n'imagine pas, et moi la première, avant d'en discuter très concrètement, c'est le temps que ces familles passent, et ces femmes en particulier, la charge mentale qui consiste à réussir à acheter un maximum de choses avec pas assez d'argent de toute façon. Et que, voilà, tu disais chercher les bonnes affaires et en même temps pas trop loin parce qu'on n'a pas de véhicule, pouvoir faire des stocks et en même temps pas trop parce que c'est à bout de bras. Enfin voilà, et c'est une charge mentale et un temps qui ne peuvent pas être consacrés à un emploi par exemple, ou comme notre département, notre chef de département le dit, à un travail utile à la société. Enfin, rien que le fait de se débrouiller pour que tout rentre dans les quelques euros qu'ils ont, c'est déjà un travail en soi. Donc j'avais envie d'insister encore un peu dessus. Et juste pour ceux qui seraient intéressés pour les résultats des expérimentations en général, elles vont toutes dans le même sens. Donc vous pouvez aller sur le site revenudebase.info, il y a une carte des expérimentations avec tous les effets des expérimentations qui sortent au fur et à mesure. Et évidemment, le type de consommation est comme tu disais, une focale récurrente, parce qu'on a cette méfiance d'emblée sur le pauvre. D'ailleurs, on l'avait déjà avant les congés payés. Hein, le pauvre, forcément, ou l'esclavage. Hein, l'esclave n'est pas capable de gérer son temps. Le pauvre va mal utiliser aussi son argent, etc. Donc on retrouve cette espèce de comportement vomitif, à mon sens, mais très colonialiste et paternaliste et richissimiste. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. On l'invente. En tout cas, voilà, allez voir et on voit bien qu'il y a une récurrence dans toutes les expérimentations sur tous les continents. La priorité, c'est sur la nourriture, c'est sur les enfants, c'est sur l'éducation, c'est sur le logement et l'investissement pour s'intégrer socialement et par le travail. Donc se former ou acheter une petite mobylette pour se permettre d'aller travailler, tout simplement, quoi. Donc voilà, ceci dit, je suis assez frappée par notamment un mouvement qui est en train de naître et vraiment de prendre une grande ampleur aux États-Unis, autour des villes, puisque si on revient dans notre exploration du jour sur une expérimentation au niveau municipal, il y a une centaine de villes aux États-Unis qui se sont lancées dans des expérimentations, qui se sont mises en réseau et qui sont de plus en plus visibles et par rapport concrètement aux modalités pratiques qu'elles réussissent à mettre en place. Et aussi, du coup, on a une montée de chiffres, d'analyse, parce qu'il y a un accompagnement scientifique intéressant là-dessus. Et donc là où aux États-Unis le libéralisme a quand même fait beaucoup de dégâts et où il commence à tendre vers ce que nous on appelle un RSA, et bien nous, à l'inverse, depuis le Conseil national de la Résistance, avec nous notre socle social, on le désagrège et on arrive, je vous disais, dans le département du Nord à explorer, j'allais dire exploiter, c'est exactement ça, de dire aux personnes à qui on offre généreusement 3 sous, pas assez pour vivre, en plus de leur demander d'être utile à la société au-delà de ce qu'elles font déjà. Donc peut-être qu'on va réussir à se réunir entre les deux et puis nous arrêter de tout déglinguer, mais au niveau français, je crois que c'est aussi un objectif de Damien Carême au départ, c'était d'essaimer. Est-ce qu'il y a eu une reprise? Est-ce que ça a fait des petits un peu partout ou pas, et comment?
Oui, je vais rester sur le contexte français, mais effectivement, pour reprendre le contexte politique local, il y a une volonté de porter un discours politique alternatif, je l'ai dit plusieurs fois, par l'action publique locale. Ce qui est une constante, si on pense au socialisme municipal à Roubaix, au tournant du siècle, du XXe siècle.
Ou au municipalisme qui éclot autour de la ville de Grenoble, etc. Enfin, on en parle de plus en plus. Ouais.
Oui, c'est ces questions-là, et c'est vraiment quelque chose d'important. Et dans ce projet-là, c'est aussi quelque chose d'important. C'est cette volonté d'exemple et de porter un exemple, et donc d'essaimer dans d'autres villes. Puisqu'on est sur des acteurs qui, dans le champ politique, sont des dominants, parce qu'ils sont élus et ils ont donc les pouvoirs et les compétences qu'ils ont au niveau local, mais ils sont dominés au niveau national. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas la main sur la loi et sur la possibilité de changer concrètement les choses, et qui donc vont porter à l'échelle locale des propositions politiques alternatives. Et c'était vraiment aussi dans les objectifs donc de Damien Carême et de la municipalité de Grande-Synthe de faire ça. C'est ce qui a été fait d'ailleurs sur la question des migrations que j'évoquais rapidement tout à l'heure. Il y a un réseau national des villes et territoires accueillants qui a été créé à l'initiative de la ville de Grande-Synthe, où beaucoup d'élus locaux se sont retrouvés. Sur cette question des garanties de revenus notamment, il y a cette idée, donc on parle d'expérimentation depuis tout à l'heure, moi je parle d'expérience locale, puisqu'il n'y a pas vraiment la mise en place d'un processus qu'on pourrait appeler d'expérimental, mais il y a un parallèle, je pense, à faire avec ce qui s'est passé dans les années 70-80, où c'est déjà des municipalités, donc je pense à Besançon qui, dès 67, a mis en place un minimum social garanti au niveau local, la ville de Rennes, je pense à Chenôve, il y a Clichy, il y a des choses qui sont mises en place, et à Grande-Synthe, qui ont nourri les débats et les rapports de préfiguration du RMI. Donc c'est des initiatives et des expériences locales qui vont nourrir les modifications finalement et les débats au niveau national. Et ici, donc aujourd'hui, il y avait aussi cet objectif et donc il y a d'autres villes à la suite de Grande-Synthe. On a reçu concrètement beaucoup de délégations, il y a beaucoup de gens qui ont été intéressés et aussi parce qu'il y a eu des élections municipales qui sont venues. Donc je pense notamment très très localement à la ville de Séclin, qui a mis en place un minimum social garanti pour sa population. Donc j'ai peu de détails sur le projet, mais c'est le nom déjà est le même et ce type de dispositif. Et un peu plus loin, les projets marquants, il y a la métropole de Lyon qui a, elle, ciblé sur les jeunes, puisque les moins de 25 ans aujourd'hui n'ont toujours pas le droit au minimum de protection sociale que permet
l'État. Ils ont le droit d'aller en prison, mais ils n'ont pas le droit de vivre dignement.
C'est un héritage d'un modèle familialiste, c'est-à-dire qu'on reste sur la logique de la famille reste le premier échelon de protection sociale. Et donc, oui, il y a un revenu de solidarité jeune qui a été mis en place à Lyon. Je pense à la ville de Pont-de-Claix, à côté de Grenoble, qui a mis en place un complément minimum garanti. Aujourd'hui, il y a une expérience qui est mise en place aussi par la ville d'Arcueil. Donc, il y a vraiment cette volonté d'essaimage et de porter un discours politique par l'action publique locale, ce qui fonctionne pas très bien aujourd'hui parce que c'est pas au cœur des discussions et du débat, mais qui, en tout cas, c'était l'ambition initiale, c'était l'ambition des départements dont on parlait tout à l'heure aussi.
Et on voit que, grâce à l'histoire que tu nous as rappelée, que ça peut faire boule de neige. Et malgré le plafond de, j'allais pas dire de verre, mais de béton que M. Macron nous impose aujourd'hui, on peut faire bouger les choses et puis familiariser les gens avec l'idée, tester, etc. J'ai une micro parallèle avec l'expérimentation de Terra, qui dans un autre modèle réussit aussi à et puis aussi plus au niveau rural. On va devoir terminer là. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller explorer sur les sites des villes citées, par exemple, pour repérer un petit peu comment est-ce qu'elles se sont appropriées l'idée et le modèle, entre guillemets, lancé par Damien Carême à Grande-Synthe. Il y a un rapport que tu conseilles aussi, dont tu les conseilles la lecture.
Alors que dont je conseille la lecture, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai produit un rapport d'analyse pour la ville un an après la mise en œuvre du dispositif, qui est disponible sur le site internet de la ville, donc qui peut être pour appréhender un peu le dispositif, qui peut être intéressant.
Et bientôt ta thèse. Alors on te souhaite bonne chance pour la soutenance.
J'espère bientôt.
Donc en tout cas, on vous tiendra au courant.
Eh bien, on se quitte avec une toute dernière chanson. Il s'agit de L'Argent, c'est Chanson plus Bifluori qui l'interprète. Et puis, rendez-vous le mois prochain.
Merci Clément.
Merci Clément, beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
L'argent, c'est des pépettes, des billets, des bifetons, des livrets, des mandats, des sicaves, des actions. C'est du fric, de la mitraille, du liquide, tous ces ronds. C'est du flouze, des dollars, des roupies, des millions. Y'a que le pognon. C'est la bourse, la monnaie, compte en banque, commission, des devises, des placements, fortunés, dotations, plus-value, capital, honoraire, expansion, intérêt, patrimoine, numéraire, provision. Y'a que le pognon. Est-ce que dos, peseta, spéculé, picaillon, des dépôts, du crédit, des plaquets, des bâtons, des espèces, des deniers, du profit, c'est du jonc, des finances, des affaires, créances, obligations. Y'a que le pognon. J'ai
financier, ma MPE, chez les huissiers, sur le palier, des tonnes de factures à payer. Je suis endetté, j'ai plus d'argent pour le loyer, j'ai plus de famille, j'ai que suicide, même pas au gaz, on l'a coupé. Des recettes, des savoirs et des fonds, la galette, la cagnotte, de la braise, des jetons, des escomptes, des produits, des avances, des coupons, c'est des sous, des écus, des gains, des transactions. Y'a que le pognon. Des transferts, des emprunts, plans, des pas, subventions, des revenus, des réserves, c'est du pèse et des ronds, portefeuille, petite coupure, virement, spéculation, c'est la caisse, le trésor, le marché, les options. Y'a que le pognon.